Your conference is being recorded.
François de Saint-Pierre, la parole est à vous.
Merci Pierre-Fabrice, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir. Je vais vous dire que les collaborateurs de Lazard Frères Gestion sont à nouveau rassemblés au 25 rue de Courcelles à Paris et dans nos différents bureaux en région et à Bruxelles. Et ils sont bien sûr à votre disposition pour vous recevoir autant que de besoin. Alors pendant la période de confinement qui a correspondu à peu près à la crise sanitaire, nous avons essayé de maintenir le mieux possible le contact avec vous. Et la situation de déconfinement reste quand même assez compliquée et la situation économique peut-être encore plus. Et c'est pour cela que nous souhaitons poursuivre nos rencontres téléphoniques et que nous vous proposons ce soir de faire un point d'actualité, de mise à jour de la situation globale en insistant sur certains aspects de la reprise économique en cours. Mathieu Vouest va donc prendre la parole et vous faire sa présentation. Mathieu, à toi.
Merci François. Donc bonsoir à tous. Donc je vais m'appuyer sur le document. De façon un peu habituelle, hein, je commence par un point, mais très rapide, sur l'épidémie, parce que ça reste quand même l'élément déterminant de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui va se passer en bonne partie. Donc le constat, c'est que sur les pays développés, on a une poursuite de l'amélioration. Ça fait maintenant un moment qu'on a des baisses du nombre de nouveaux cas et du nombre de décès. Et ça ne se dément pas. Hein, au niveau de la zone euro, on a des niveaux aujourd'hui de nouveaux cas ou de décès qui sont très très inférieurs à ce qu'on avait pu connaître sur le pic de fin mars, début avril. Aux États-Unis aussi, alors on a un peu retardé aux États-Unis, mais on a une vraie amélioration qui se voit très bien dans les nouveaux décès, qui diminuent fortement, hein, c'est la courbe bleu clair, qui se voit moins dans les nouveaux cas, mais ça tient aussi à l'intensification extrêmement violente des tests aux États-Unis, avec un nombre de tests qui maintenant atteint des 400-500 000 par jour. Et forcément, si vous testez beaucoup plus massivement, vous trouvez davantage de cas. C'est pour ça que la courbe des décès, même si elle est un peu retardée, a cet avantage de ne pas être biaisée par la politique de test. Et elle est donc rassurante. Sur les pays émergents, on a quand même encore un certain nombre de pays émergents où la situation est compliquée. On est toujours dans la phase de dégradation. En particulier, on a l'Inde et le Brésil, où il n'y a pas pour l'instant de baisse du nombre de cas. C'est vrai que dans la plupart des pays émergents, le nombre de décès reste relativement modeste par rapport au nombre de nouveaux cas. Donc la gravité, on va dire, de la crise est peut-être un peu inférieure à ce que montrent les nouveaux cas. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, il faut garder à l'esprit que sur certains grands pays développés, on n'a pas encore vu d'amélioration, d'inflexion à la baisse. Sur la Chine et la Corée du Sud, ça reste sous contrôle. Sur la Corée du Sud, on a eu quelques petits foyers, mais qui ont a priori été contrôlés. J'avais déjà évoqué la dernière fois qu'ils nous ont quand même rappelé que on peut avoir ce qu'on appelle un peu des super spreaders, donc des personnes qui se mettent à contaminer tout d'un coup. Une seule personne peut contaminer un nombre assez élevé de personnes dans des circonstances particulières, et donc il faut toujours être vigilant. Donc on voit la courbe bleue qui remonte, hein, mais l'échelle de droite vous montre qu'on est quand même sur des dizaines de cas par jour. On n'est pas sur des chiffres qui sont élevés. Et en Chine, il y avait eu un petit redémarrage à Wuhan avec quelques cas. Et donc, ils ont testé l'ensemble de toute la population et sont arrivés à un niveau extrêmement bas de prévalence de la maladie. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de pays où on voit un vrai redémarrage au-delà de quelques dizaines qui tiennent aussi à la volatilité. Donc c'est plutôt rassurant. Page 4, c'est juste pour vous dire de ce qu'on retient de notre analyse. On n'est pas des spécialistes de l'épidémie, donc si on l'analyse, c'est juste pour avoir un point de départ pour pouvoir faire une analyse économique. Et donc le point de départ qu'on retient, c'est des hypothèses. Et ces hypothèses, c'est essentiellement qu'on va avoir une poursuite de la sortie du confinement. C'est quelque chose qui est essentiel à l'amélioration économique, c'est quelque chose dont on est assez convaincu. soit parce qu'il n'y a pas de deuxième vague, c'est le deuxième point qui a été évoqué sur ce document, mais en quatrième point, on aura peut-être dû les rapprocher, il y a le fait que même si on a une reprise de l'épidémie, il n'y aura pas de retour au confinement généralisé. On a eu des voix françaises qui l'ont affirmé ce week-end. On a eu aujourd'hui des membres du gouvernement américain qui l'ont aussi évoqué. Le coût économique du confinement paraît disproportionné par rapport en fait aux gains de mortalité par rapport à des stratégies où on isolerait simplement les personnes les plus fragiles. Il s'avère que dans la population active qui travaille, le niveau de fragilité est très très faible. Et donc voilà, notre analyse repose sur cette idée qu'il n'y aura pas de deuxième vague de confinement, soit parce qu'il n'y a pas de deuxième vague d'épidémie, soit simplement parce qu'on, face à une éventuelle deuxième vague, on décidera de ne pas reconfiner. On a aussi comme hypothèse qu'il n'y a pas de solution miracle à court terme qui apparaisse. C'est le plus probable, mais ce n'est pas non plus certain. On ne peut pas totalement exclure qu'on ait un vaccin sur la toute fin d'année. On n'a pas mis ça dans nos prévisions. C'est sûr que ce serait un élément extrêmement positif et qui rendrait nos prévisions plus positives si on avait quelque chose de ce type-là. Sur l'évolution économique, donc avant de faire un focus sur comment ça se passe au niveau consommateur, entreprise et rentrer un peu plus précisément au niveau des secteurs, on a juste mis un slide pour remettre les derniers chiffres sur la Chine. Ils sont importants parce que c'est le pays qui est rentré le premier dans l'épidémie, dans le confinement et dans le déconfinement. Et on a une poursuite indiscutable de l'amélioration des indicateurs. Donc en Chine, on a quelques indicateurs durs. Les indicateurs durs, c'est ceux où on mesure vraiment l'activité, la production, les ventes au détail, mais on n'en a pas beaucoup. On a les ventes au détail, l'investissement et la production industrielle qui sont publiées le même jour chaque mois. Et on voit qu'en glissement sur un an, on avait une amélioration le mois précédent et on a de nouveau une amélioration. On est très légèrement positif sur un an sur l'investissement. On est revenu proche de plus 5% sur la production industrielle. Par contre, les ventes au détail, si elles aussi continuent de s'améliorer, on est toujours sur des baisses non négligeables sur un an de l'ordre de 7-8%. Je l'avais dit, c'est pas surprenant parce que c'est plus facile de faire redémarrer une usine que de faire redémarrer des ventes au détail. Pour faire démarrer une usine, il suffit de l'ouvrir et de mettre des gens derrière les machines. Pour les ventes au détail, vous pouvez rouvrir les magasins et mettre des gens derrière les comptoirs. S'il n'y a pas de clients qui se pressent pour acheter, vos ventes au détail ne rebondissent pas. Donc c'est assez logique que ça se passe dans cet ordre-là, mais en tout cas, voilà. C'est progressif, mais la direction reste toujours plutôt positive. Et par rapport aux ventes au détail, qui reste vraiment l'indicateur qui est en retard pour l'instant, on a des raisons d'être optimiste pour le mois de mai, puisque pour le mois de mai, on a déjà une enquête. Donc là, on n'est pas dans la hard data, pas dans de la donnée dure. C'est juste un avis qu'on demande aux professionnels. C'est pas une mesure effective des ventes qui ont lieu. Mais on voit que sur le niveau de confiance des entreprises dans le secteur non manufacturier, où la consommation joue pour beaucoup, la courbe bleue, vous voyez qu'on a fortement rebondi sur le dernier mois. On est passé d'à peu près 48 à 55 et on a vraiment retrouvé les niveaux d'avant-crise. Donc c'est assez positif sur ce qu'on pourrait avoir comme évolution des ventes au détail et de la consommation sur le mois de mai. De façon un peu plus générale, l'impact, si on regarde ce qui se passe côté ménage, l'impact de la crise, c'est un effet extrêmement récessif avec une très forte baisse des ventes au détail au niveau mondial. Donc au niveau du G20, on est pratiquement à moins 15% en glissement sur un an, contre une norme qui est plutôt d'être à plus 3, plus 4. Donc on voit un impact extrêmement important. La consommation s'est en partie arrêtée. Si on regarde ce qui se passe pour la situation des ménages, par rapport au chômage, on s'aperçoit qu'on a des évolutions assez différentes selon les pays à cause de systèmes de protection sociale et de mécanismes de chômage partiel qui ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, on a eu une envolée du taux de chômage. Alors depuis, on ne l'a pas mis là, mais on a une petite baisse sur le tout dernier mois. Mais en tout cas, l'envolée a été extrêmement importante. Sur la zone euro, vous voyez que c'est beaucoup plus faible sur la courbe noire. On l'a prise hors Italie, non pas parce que ce serait plus défavorable avec l'Italie avec une plus forte remontée, c'est qu'en fait, avec l'Italie, il n'y a pas de remontée du tout, puisqu'en Italie, on a une statistique de chômage qui a très fortement baissé. puisque pour, on peut le comprendre dans le sens que pour être chômeur, il faut être à la recherche active d'un emploi. Et quand vous êtes dans une zone totalement confinée où vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, bah forcément vous ne pouvez pas être à la recherche active d'un emploi et donc vous ne pouvez pas être compté comme chômeur. Donc voilà, on trouvait que le cas italien biaisait un peu la statistique en donnant un effet trop positif fictif. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Mais même en le sortant et donc avec un chiffre plus négatif que si on avait pris la zone euro dans son ensemble, on voit bien que la courbe noire se dégrade beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la courbe bleue. Alors après, elle sous-estime le chômage partiel, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que le chômage partiel n'a pas le même poids sur la consommation, puisqu'il n'a pas la même signification qu'un chômage a priori définitif. Quand on regarde la confiance des ménages, donc là on regarde sur les États-Unis parce qu'on a des statistiques plus détaillées et plus longues, on s'aperçoit que il y a deux composantes, hein, dans la grande enquête américaine de confiance des ménages, c'est le Conference Board. Il y a deux composantes, la situation actuelle et les anticipations. On voit qu'on a une très forte baisse sur la situation présente, mais qui finalement ne nous amène pas du tout à des records à la baisse. Hein. On est bien plus haut qu'en 2009-2010 et bien plus haut que lors de la récession de 92. Donc, c'est un premier renseignement. Le choc instantané est violent, mais finalement la perception actuelle de la situation n'est pas si dégradée. Et surtout, quand on regarde les anticipations, on s'aperçoit que les anticipations n'ont quasiment pas varié. C'est vraiment un mouvement microscopique, ce qui laisse penser que pour l'instant, les ménages considèrent vraiment que voilà, il y a un confinement qui est temporaire, leur situation est dégradée temporairement, mais que les perspectives de moyen terme les concernant ne sont pas plus dégradées qu'ils l'étaient avant la crise. Alors ça peut évoluer, on peut avoir une dégradation des anticipations dans les prochains mois si la situation se dégrade, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Les ménages ne sont pas si noirs que ça, et en particulier pour une situation un peu de moyen terme. Sur le comportement des ménages et la façon dont ce comportement se fait en termes de consommation et d'épargne, on a le détail aux États-Unis. Il n'y a qu'aux États-Unis où on a un détail du comportement d'épargne des ménages tous les mois. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc la partie droite, là où on a écrit total, c'est la variation de leur épargne en pourcentage de leurs revenus disponibles annuels. Et vous voyez que sur mars et avril, ils ont réussi à gonfler leur épargne de l'équivalent de 3% de revenus annuels. C'est absolument colossal. D'où cela provient-il? On a la décomposition juste à droite. Alors, le premier élément, c'est la baisse de la consommation. Donc ça, mécaniquement, si tout d'un coup vous consommez moins, bah, quelque part, c'est que vous allez sans doute plus épargner. Et puis, ça tient aussi aux revenus qui, en fait, si les revenus avaient baissé autant que la baisse de la consommation, bah, il n'y aurait pas eu d'impact sur l'épargne. Hein, on aurait eu deux baisses équivalentes. Et ça n'a pas été le cas parce que, certes, on a une baisse d'environ un point de revenus annuels, des revenus d'activité, c'est la partie bleu clair, où on voit qu'on baisse. Par contre, c'est plus que compensé par la hausse des transferts nets, donc les allocations chômage normales, les allocations chômage exceptionnelles, les chèques qui ont été envoyés aux ménages américains. Et donc finalement, l'augmentation de l'épargne, on la comprend bien, les ménages ont eu plus de revenus qu'à la normale, et ils ont consommé sensiblement moins qu'à la normale. Donc forcément, ils ont une épargne qui s'est créée. Et une des questions, c'est de savoir est-ce que cette épargne sera consommée dans un deuxième temps, est-ce qu'il y aura un effet de rattrapage et à quel point cela pourra-t-il avoir un effet entraînant sur l'économie. Toujours sur les ménages, et là aussi on se concentre beaucoup sur les États-Unis, mais c'est quand même là où on a l'appareil statistique le plus complet et où on peut le plus finement analyser. C'est que quand on regarde un élément important dans les récessions, c'est qu'on a une baisse de la richesse nette des ménages. Qui est dû au fait que dans la récession, vous avez à minima normalement une forte baisse du marché action, et des fois elle est amplifiée par une forte baisse du prix immobilier, et ça a un effet richesse négatif qui pèse sur la consommation. On le retrouve en 2008-2009, hein, où on a une baisse assez importante. Là, on n'a pas les chiffres encore à fin mars, et encore moins les chiffres à aujourd'hui, puisque c'est une statistique trimestrielle, mais on a à partir des indices mensuels des prix immobiliers et puis de l'évolution des cours de bourse journaliers, on a pu faire une estimation qui est normalement très fiable de leur patrimoine net. Et on voit que certes, à fin mars, il y avait eu une baisse non négligeable, mais en fait, depuis, on a eu un rebond très important. Et donc, les ménages ne sont pas appauvris en masse. par un effet richesse. Après, les pertes d'emplois feront une forme d'appauvrissement, bien sûr, mais simplement en stock de patrimoine, les prix de l'immobilier ont continué de monter sur les tout derniers mois qu'on a. La bourse n'a pas fait grand-chose, finalement. Elle est à peu près revenue au niveau où elle était avant crise. Donc, il n'y a pas cet effet négatif qui pèse normalement sur la psychologie et sur le comportement de consommation des ménages. Un autre élément qui est aussi rassurant aux États-Unis, où on a des données hebdomadaires sur les demandes de prêts, de nouveaux prêts hypothécaires. Ce n'est pas les renégociations de prêts, c'est une statistique à part, où là, ce n'est pas des flux d'achat, c'est juste la baisse des taux qui provoque des renégociations de prêts. Là, c'est vraiment les nouveaux prêts hypothécaires liés à des achats. Et on voit qu'on a eu une forte baisse dans un premier temps et que depuis, on a un fort rebond, ce qui laisserait penser que sur des achats très lourds comme les maisons, on est en train d'avoir un rebond. Alors, on va attendre d'avoir la confirmation par les chiffres de vente de maisons, mais qui sont décalés dans le temps. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Ça montre que sur ce type d'achat très, très important, finalement, les ménages sont toujours présents ou sont de nouveau présents après une période de quelques semaines seulement où on a eu une dégradation. Sur le comportement des ménages un peu en temps réel, alors à la fois sur les États-Unis et puis sur la France plus tard, on le verra, on a des statistiques qu'on regarde, qui n'existent pas d'habitude, hein, un certain nombre été créés pour l'occasion, de données un peu plus en temps réel. Et donc sur les États-Unis, il y a JP Morgan qui a, à partir des données des cartes bancaires de la Chase, à un indicateur journalier d'évolution. Alors, ce n'est pas aussi fiable et bien construit qu'un chiffre de consommation ou qu'un chiffre de vente au détail, hein, bien sûr, mais au moins, ça donne une évolution et ça permet de voir un peu ce qui se passe. Et on voit donc que les dépenses journalières via ces cartes Chase, après avoir chuté violemment en tombant jusqu'à du moins 40% sur un an, sont en train de remonter tendanciellement. Alors, c'est pas totalement régulier. On a effacé qu'à peu près la moitié de la baisse. Mais voilà, on est plutôt sur du moins 19% aujourd'hui quand on était sur du moins 41%. Donc, on voit quand même que il y a un rebond qui se met en place. Sur les achats très lourds comme les voitures, on a aussi des éléments de rebond. Alors, c'est un rebond qui n'est que partiel. Mais c'est vrai que là, on a uniquement les chiffres pour le mois de mai, on n'a pas du tout d'idée de ce qui se passe sur le début juin. Et ce qu'on voit, c'est que sur le mois d'avril, qui était le mois catastrophique absolu, on n'était pas tombé vraiment plus bas que ce qu'on avait fait en 2009. Et que là, sur le mois de mai, on rebondit quand même assez significativement et beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait en 2009-2010. Et on peut penser que ça va se poursuivre parce que là, on a quand même encore un certain nombre de concessionnaires qui étaient fermés. Et donc voilà, ça nous envoie là aussi un message qui est que certes, la consommation, il y a un choc extrêmement violent qui est indiscutable, mais que la capacité à se reprendre, même sur des achats lourds, est quand même assez forte. Il faudra suivre les prochains mois, mais on a plutôt des surprises assez positives. Si on passe toujours sur les ménages, si on passe à la zone euro et à la France, on a en fait dans la zone euro une baisse entre février et avril des ventes au détail de l'ordre d'un peu plus de 20%. C'est le bleu clair sur le graphique. C'est très important comme on est tous français et qu'on vit en France et qu'on est entouré on est imbibé dans l'environnement français, c'est important de garder à l'esprit que la France est un des pays qui souffre le plus qui a le plus souffert au moins de cette crise d'un point de vue économique. Et en tout cas, quand on regarde les ventes au détail, aucun pays en Europe, on pourrait au-delà de la zone euro, hein, aucun pays en Europe n'a connu une baisse aussi forte que ce qu'on a connu en France au niveau des ventes au détail. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. La France n'est pas représentative de l'ensemble de la zone euro. La zone euro va mieux que ne va la France parce que le confinement a été plus violent. C'était une des questions que j'ai vues avant de commencer. J'ai regardé les questions qui étaient déjà posées. Une des explications, c'est que la France a été un des pays qui a confiné le plus durement et immédiatement. La France a plus souffert que beaucoup d'autres pays. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, les ventes de détail, là où on recule de l'ordre de 33-34%, de 32-33% chez nous, eux reculent de 8-9%. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur entre la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est les chiffres qui datent, hein, puisqu'on est, sur des chiffres à fin avril. Je l'ai dit, on a aussi en France des données un peu en temps réel. C'est pas aussi autant réel que ce qu'a pu faire JP Morgan sur les États-Unis avec la Chase. Mais c'est en fait c'est l'INSEE qui a fait un partenariat à partir de la mi-mars. Ils ont fait un partenariat avec le groupe des cartes bancaires pour pouvoir avoir leur statistique. On a un degré de finesse qui est assez intéressant. Là, par exemple, sur le premier graphique, vous voyez en bleu l'habillement et puis en rouge l'équipement du foyer. Ce qu'on voit, c'est que l'habillement jusqu'au déconfinement est resté totalement plombé et on est revenu instantanément au niveau qui prévalait avant la crise une fois le déconfinement acté. Donc ça, c'est assez impressionnant. On aurait pu attendre quelque chose de plus lent, honnêtement. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Côté bien d'équipement, on a eu ce qu'on espérait, mais on n'était pas sûr. On a même été sur des niveaux au-dessus de la crise. Simplement parce que on a eu un effet accumulation d'achats retardés et les gens qui devaient changer une télévision, une machine à laver, etc. Finalement ils l'ont fait avec retard, mais ils l'ont fait et donc on a eu une forme d'embouteillage de consommation de biens d'équipement, ce qui permet des chiffres très très forts comme on voit sur la courbe. Tout n'a pas rebondi, hein, bien sûr, de cette façon-là. Ce qui n'a pas rebondi, c'est en particulier le carburant. Alors ça, c'est pas très grave. Hein. Carburant, ça fait pas fort. Croissance en PIB, beaucoup d'importations. Mais en tout cas, on voit un peu bleu sur la page suivante, on reste sur des choses très déprimées. Et ce qui n'a pas rebondi encore de façon significative, c'est l'hébergement et la restauration. Mais ce qui est assez logique, puisque la restauration, les restaurants ont été ouverts après les données qu'on a sur ce graphique. Et on peut espérer que ça s'améliore assez rapidement. En tout cas, ce qu'on voit sur l'Allemagne, où on n'a pas de données comme ça, mais on a des données via le système Open Table de réservation. Là, pour l'Allemagne, on l'a pour 7-8 pays dans le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le niveau de réservation a quand même s'est amélioré assez rapidement une fois le confinement arrêté. On est passé, on était sur zéro, on était à moins 100% de baisse des réservations et on n'est plus que entre moins 20 et moins 40. On a un peu de volatilité hein, depuis une dizaine de jours, mais en moyenne peut-être à moins 30. Donc voilà, on n'est pas du tout revenu à des niveaux normaux, mais voilà, si on est à 70% par rapport à la normale, c'est quand même beaucoup mieux que le zéro et c'est un progrès qui s'est fait en simplement un mois. Donc on peut espérer qu'en France, on voit aussi une amélioration se mettre en place sur ces postes-là. Et c'est vrai que c'est les postes qui restent déprimés hein, par rapport au bien d'équipement et à l'habillement. Ça reste déprimé et ça restera pendant encore un certain nombre de mois déprimé. Page 12, on a des indicateurs de mobilité qui sont assez intéressants. Donc il en existe produits par Google, produits par Apple. On a fait une synthèse de tous les indicateurs en gardant ce qui nous paraissait avoir le plus de sens. On n'a pas tout mis, on a mis là où on pense que ça traduit vraiment un comportement et un changement de psychologie. Sur la fin du graphique, c'est des pointillés parce que on a uniquement de façon journalière, on n'a que les données Apple, les données Google sont données avec un peu de retard. Et donc, la courbe pleine, c'est quand on agrège les deux. Et la courbe pointillée, c'est quand on estime l'agrégation des deux sur la base de seulement les données Apple. Donc, c'est assez fiable, mais il n'y a pas les données Google qui peuvent être agrégées. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un indice de mobilité qui, en France, a très fortement accéléré à partir du déconfinement. Et on voit que sur les derniers éléments, on continue de s'améliorer assez rapidement. On n'est pas sur un plateau, on est toujours sur une pente en Allemagne, en France, qui est assez nette. Donc on peut penser que l'amélioration qu'on a vue sur la consommation dans différents postes va continuer de se poursuivre, voire se renforcer sur la base de cet indicateur. Sur l'Italie et l'Espagne, ça reste... Donc c'est vrai que la France, qui était peut-être le maillon faible sur mars-avril sur la consommation, va peut-être s'en sortir mieux que l'Espagne et l'Italie sur les prochains mois, puisque l'amélioration très forte hein, qu'on voit dans la mobilité française, on la retrouve quand même beaucoup moins sur l'Espagne et sur l'Italie. Voilà, donc sur les ménages, donc on a franchement des éléments quand même très parcellaires, et donc c'est difficile hein, d'avoir une vision fine et certaine de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Mais le sentiment qu'on a, c'est quand même que on a des ménages qui vont pas si mal, hein, on l'a dit, d'un point de vue psychologie et d'un point de vue patrimoine et revenus. On a eu quand même beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Avec la sortie progressive de la sortie du confinement, on a une amélioration assez nette hein, qui se dessine sur la consommation des ménages. En tout cas, les indicateurs les plus en temps réel que je viens de vous montrer vont clairement dans ce sens-là. L'impression qu'on a, c'est que c'est les très gros achats sont ceux qui reviennent le plus vite. Et ça va, c'est vrai pour c'est vrai sur les maisons. Si on peut appeler ça un achat de consommation, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour l'électroménager. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est là où l'achat correspond à plus à un moment de plaisir. Donc, clairement, le restaurant qui est un achat plaisir, ou le fait on achète, quand on va au restaurant, on n'achète pas simplement un plat qu'on pourrait ramener chez soi, c'est le moment au restaurant qui fait partie du plaisir, et là, donc forcément, ça reste déprimé. Ça pourrait être le cas, mais on l'a vu que ça l'est moins que ce qu'on craignait sur les habits. Bon, c'est vrai qu'une partie des achats d'habits sont purement utilitaires, mais il y a toute une partie des achats qui correspondent à un moment de plaisir, et c'est vrai que ce moment, avec la distanciation, les masques, etc., dans les magasins, on pouvait craindre que l'habillement reparte, ne revienne pas sur les niveaux d'avant-crise. Il semble être revenu sur les niveaux d'avant-crise, donc il faudra voir si c'est durable dans le temps. Voilà, c'est un peu là. Il n'y a pas de grosses surprises, hein, on n'a pas de nouvelles fracassantes, simplement les graphiques permettent de un peu quantifier ça. Et on retrouve bien les schémas qu'on avait en tête sur les achats qui repartiraient le plus vite, comme les achats un peu lourds, et puis ceux qui resteraient un peu plus compliqués, comme un peu les vêtements et un peu surtout tout ce qui est lié au restaurant. Reste une question à laquelle on n'a pas d'éléments de réponse à aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'épargne forcée qui vient à la fois de revenus maintenus, voire de revenus augmentés pour partie aux États-Unis, alors que la consommation a chuté, est-ce que cette épargne forcée va être dépensée? Il n'y a pas de réponse claire. Si la confiance des consommateurs et leurs anticipations restent aussi élevées que ce qu'on a vu sur l'indicateur américain, il y a quand même une probabilité assez élevée et ça participera bien sûr d'une reprise économique plus générale. Si je passe côté entreprise, alors côté entreprise, on a beaucoup moins d'éléments. On n'a pas la finesse qu'on peut avoir sur les ménages. En tout cas, sur les comportements des entreprises, donc pour la croissance, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe côté investissement. Les enquêtes qu'on a nous envoient un message qui est qu'il y a une forte correction, mais qui n'est pas une correction historique qu'on n'a jamais vue. On reste sur quelque chose qu'on a déjà vu et qui est même inférieur aux pires contractions qu'on a pu voir. Donc, on a aux États-Unis un indicateur synthétique des intentions d'investissement. On voit la baisse très très brutale qu'on a eue, mais sans atteindre les points bas hein, de 2009. Et on rebondit déjà. Donc, on peut penser qu'on aura une contraction d'investissement qui reste très en deçà de ce qu'on a eu en 2008-2009, sous réserve hein, que la situation économique ne se redégrade pas davantage, faire un effet de deuxième vague économique, si je peux dire, liée à des faillites, mais ce qui reste notre scénario principal. Et si on regarde en France, où on a aussi un indicateur d'intention d'investissement des entreprises, on a même quelque chose de plus positif, puisque pour l'instant, certes, on est sur un recul, hein, donc il n'y a pas non plus de miracle, mais un recul qui est très très inférieur à 2009 et qui est même inférieur à la plupart des récessions, en tout cas qui est très inférieur à 1993 et qui est même légèrement pour l'instant inférieur à 2002-2003. Donc, voilà, sur la France, on a quelque chose d'un peu plus positif qu'aux États-Unis, et les deux sont, on va dire, plutôt rassurants, parce que voilà, on savait hein, qu'on aurait une correction sur l'investissement, on ne se faisait pas tellement d'illusions. Le débat qui existait, c'est est-ce que ça sera une forte correction ou est-ce que ça pourrait être une correction qu'on n'a jamais vue par son ampleur? Pour l'instant, les éléments qu'on a militent quand même pour le plus positif des deux scénarios, c'est que ça sera une forte correction, mais qui ne sera pas une correction historique par son ampleur. Sur les entreprises, quand on essaie d'analyser un peu leur comportement, on a clairement eu un mouvement de défiance par rapport à leur situation de trésorerie. Les entreprises ont eu extrêmement peur d'avoir un problème de trésorerie avec des ventes qui s'arrêtent et puis des charges qui restent présentes. des remboursements de prêts ou des charges de loyer, etc. Donc ça se voit très bien sur le premier graphique. Normalement, je pense qu'on devrait voir une amélioration dans les prochains mois du point de vue de cet indicateur, parce que la réalité, c'est que la situation de trésorerie des entreprises s'est énormément améliorée sur les deux derniers mois, tout simplement parce qu'elles ont tiré massivement sur leur ligne de crédit, qu'elles ont pu décaler un certain nombre de charges. Et en fait, les deux derniers mois sont les meilleurs mois des 10 dernières années en termes de variation de montant sur les dépôts bancaires des entreprises. Donc voilà, il y avait une inquiétude justifiée. En tout cas, il n'y a pas eu d'asphyxie des entreprises. De ce point de vue-là, il y a eu plutôt une disponibilité des lignes de crédit de la part des banques qui ont permis aux entreprises de se retrouver dans une situation sans doute très avantageuse d'un point de vue trésorerie. Sur la page suivante, on a fait un exercice. En fait, c'est un exercice qu'on a fait il y a quelques temps, il y a déjà une dizaine de jours. Et depuis, on a des éléments qui nous ont un peu confortés sur le fait que ce qu'on avait envisagé était pas totalement idiot, si j'ose dire. C'est un exercice qui est difficile parce que en fait, on a essayé de faire des prévisions de comment le PIB pourrait évoluer. Et on est parti du seul élément un peu en temps réel qu'on avait, qui était l'estimation d'activité qu'avait fait l'INSEE en avril. En avril, l'INSEE nous a dit qu'on était à peu près sur un recul par rapport à la norme de l'ordre de 36%. Et on avait une décomposition par les postes de l'offre, hein, pas par les postes de la demande comme on a l'habitude de le voir. C'est pas la consommation ou l'investissement. Là, c'est qui produit. Et donc sur la base de ces chiffres d'avril, on a essayé de se projeter en se disant, voilà, imaginons comment les choses pourraient évoluer et voyons ce que ça donne vu le poids de chacune de ces composantes dans le PIB, et puis sur la base des éléments un peu en temps réel qu'on avait déjà à l'époque sur le comportement du consommateur ou des entreprises. Et donc on avait fait ce travail d'une trajectoire possible en mettant des chiffres pour le mois de juin, pour septembre et pour novembre. Je vous le cache pas, hein, c'est des chiffres sur lesquels on a une part intuitive qui reste très importante. On essaye de trouver des éléments d'information concrets pour affiner. Ça reste un exercice quand même extrêmement grossier quand on met une prévision. Vous pouvez voir que typiquement, on a considéré que l'industrie allait s'améliorer assez rapidement, que la construction s'améliorait assez rapidement. Mais par contre que l'hébergement et la restauration resteraient déprimés, hein, jusqu'à septembre, jusqu'à novembre. Hein. On est resté sur une baisse de 30% par rapport à la norme de l'hébergement et de la restauration en novembre. Et puis voilà, on a rempli chacune de ces cases et puis on a regardé ce que ça donnait tout en bas en termes de perte d'activité. Et donc on était sur une perte d'activité par rapport à la normale de 13% en juin, de seulement, si j'ose dire, parce que c'est déjà énorme, hein, 7% en septembre, et de seulement 3% pour novembre. Quand on a fait ce tableau la première fois par rapport aux réactions qu'on a eues quand on les a présentées à certains clients, c'est vrai qu'on nous trouvait assez optimistes. Et depuis, on est assez conforté parce que d'une part, on a eu l'estimation de l'INSEE pour le mois de mai, qu'on n'avait pas à l'époque, hein, donc la colonne du mois de mai n'existait pas quand on a fait nos prévisions, et on s'est aperçu que nous on voyait une amélioration de 36 à 13, donc d'à peu près 23% en deux mois. L'INSEE nous disait que sur le premier mois on avait déjà fait 15, on se disait ça, c'est pas totalement idiot, hein, de se dire on fait 15 puis 8, en tout cas le 23 nous paraissait peut-être plus raisonnable que ce que des discussions nous laissaient entrevoir sur la réaction des personnes à qui on montrait ces chiffres. Et puis surtout, depuis, on a eu une estimation de la Banque de France en début de semaine, qui elle a estimé que sur la base des éléments qu'elle avait en début de semaine, on devrait avoir une activité 12% inférieure à la normale au mois de juin. Et donc là, on se retrouve sur quelque chose qui est totalement en ligne avec notre estimation, et qui est même un tout petit peu plus positif. Alors c'est marginal, mais on est assez content de finalement voir que la Banque de France est un tout petit peu plus optimiste, à moins 12 par rapport à notre moins 13. Et voilà, et donc ça nous a assez conforté par rapport à la trajectoire qu'on pouvait avoir. Voilà, donc je l'ai dit, hein, cet exercice est extrêmement difficile, on met des chiffres avec quand même plus de l'intuition et des prévisions un peu au doigt mouillé que quelque chose de très scientifique. Ce tableau a quand même aussi un avantage, c'est qu'il permet de redonner des ordres de grandeur aux différents secteurs de l'économie. Et je sais qu'en discutant avec certaines personnes qui ne comprenaient pas qu'on puisse être à moins 3% seulement d'activité sur la fin d'année, leurs arguments c'était de dire c'est impossible parce que rien que la baisse de la restauration et des hôtels va faire plus que ça. Et en fait, en regardant le tableau, ils ont découvert que le poids avant la crise de toute façon de ce secteur n'est que de 3%. Donc la restauration et les hôtels ne peuvent pas à eux seuls provoquer une baisse de PIB de 5% puisque de toute façon ils ne pèsent pas ces 5%. Et c'est vrai que ça redonne des ordres de grandeur. Surtout quand on est parisien et qu'on a l'impression que les restaurants et les hôtels sont présents partout, qu'ils représentent 10 ou 15% de l'activité, en fait, ce n'est pas le cas, ça reste quelque chose d'assez modeste. Et donc, même si on reste très dur sur l'évolution d'activité dans des secteurs très spécifiques qui sont factuellement très durement touchés, en fait, l'impact global sur l'économie n'est pas si élevé que ça. Voilà, donc... tous les chiffres qu'on a mis là sont bien sûr discutables, je l'ai dit, c'est vraiment des ordres de grandeur qu'on a imaginés, mais qui tracent une trajectoire qui, pour l'instant, en tout cas sur le mois de juin, est plutôt confirmée par ce que nous a dit la Banque de France en tout début de semaine. Donc là, c'est la première phase de la reprise qu'on l'a déjà dit, c'est vrai que pour penser à l'avenir d'un point de vue économique, on aime bien découper l'avenir en deux phases. Une première phase qui est la phase de réveil. On considère que l'économie a été mise en sommeil par le confinement. Et donc là, on a l'économie qui se réveille, des entreprises qui rouvrent, des restaurants qui rouvrent, etc. C'est une période qui va durer jusqu'à la fin d'année, à peu près. C'est comme ça qu'on le voit, jusqu'au quatrième trimestre. Et puis, à ce moment-là, on fera un constat, c'est quelle est la part de l'économie qui finalement ne se réveillera pas. Parce qu'il y aura une partie de l'économie qui ne se réveillera pas. Il y a des restaurants qui ne rouvriront pas. Il y a des petites entreprises, ou même des grandes peut-être, dans différents secteurs qui auront fait faillite. Et donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui ne va pas rouvrir? Et donc ça, notre réponse pour l'instant, sur la base, vous l'avez compris, du tableau précédent, c'est environ 3%. On pense que quand on sera en novembre, on constatera qu'il y a 3% qui ne sont pas revenus pour qui ça sera peut-être difficile de revenir. Et puis à partir de là, il y a une deuxième phase qui va commencer, c'est la phase de croissance normale, ce qu'on a d'habitude après une récession, on a de la croissance. Mais ce n'est pas une sortie de sommeil, c'est une croissance, des créations d'emplois, des vraies embauches. Et cette deuxième phase, elle est importante, mais c'est vrai que vu d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une vision sur cette deuxième phase. Elle est quand même très lointaine, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, c'est ce qu'on met dans le slide page 17, pour nous, le plus probable, c'est d'avoir une reprise assez dynamique, tout simplement parce que on a des injections de liquidités, des injections budgétaires qui sont colossales, qui ne sont pas finies. On va avoir notre prochain plan américain, il est à peu près certain, ça a été redit aujourd'hui, qu'on verra apparaître pour à minima 1000 milliards d'ici la fin du mois de juillet. On voit qu'en France, on a des plans qui sont annoncés régulièrement, c'est le cas aussi en Allemagne, dans tous les pays. Et donc, tout n'est pas encore annoncé, mais la somme de ce qui a déjà été annoncé est colossale, et quand on additionnera ce qui va être annoncé, on a vraiment des montants vraiment absolument jamais vus. Et donc là, pour nous, ça va vraiment soutenir et permettre une croissance qui va rester, qui va être à partir de là assez dynamique. Je l'ai dit, je pars de l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de nouveau confinement. S'il y avait un nouveau confinement, ce qui nous paraît vraiment peu probable, mais si c'était le cas, bien sûr, tout ce scénario serait à changer et il faudrait le revoir. Et donc voilà, il y a des inconnus qu'on évoque, l'évolution de l'épidémie en est une, les dégâts durables sur l'appareil productif, s'ils sont plus importants que ce qu'on imaginait, ça aura aussi un impact négatif. Et puis il y a aussi le policy mix, pardon pour ce terme anglo-saxon, mais c'est le mélange politique budgétaire, politique monétaire. Notre hypothèse pour la croissance 2021, c'est que ce policy mix va rester favorable. On ne va pas resserrer le budget rapidement. Les banques centrales ne vont pas resserrer leur politique monétaire rapidement. Il y aura sans doute un mouvement où ça sera fait. Mais c'est quelque chose qui sera dans un second temps. Et donc voilà, c'est une hypothèse qu'on a. On va vérifier que c'est bien le cas. Si ce n'était pas le cas, il faudrait qu'on infléchisse notre scénario à la baisse pour 2021. Donc, page suivante, on vous a remis un graphique qu'on vous avait déjà mis, qui est un graphique important pour nous, pour bien, bien quand on communique, qu'on soit clair. C'est l'évolution du PIB trimestre par trimestre. Et c'est vrai que le chiffre sur lequel on communique le plus, c'est l'ovale vert au milieu en bas, qui est que au quatrième trimestre 2020, on devrait être à peu près 3% en dessous d'où on était avant la crise. Et pour nous, c'est un chiffre important parce que c'est à partir de là qu'on va revenir sur une croissance à peu près plus normée. Et ça représente la perte un peu sèche de la mise en sommeil suivie d'un réveil qui ne sera que partiel. Et c'est vrai que ce moins 3 sur lequel on communique beaucoup, faut pas le confondre avec les chiffres de croissance annuelle qui, eux, sont beaucoup plus négatifs, puisque eux intègrent le fait que le deuxième et le troisième trimestre seront très déprimés. Et donc si on regarde la moyenne 2020 sur la moyenne 2019, la baisse est beaucoup plus importante. Au niveau de la zone euro, nous, on arrive à moins 7. Il faut voir que sur la France, on pourrait être sur des chiffres plus proches de moins 11. Donc voilà, c'est important de voir que ce moins 3, ce n'est pas la négation du fait que ça va mal et un scénario trop optimiste par rapport au moins 7 ou au moins 11. C'est juste que ce n'est pas la mesure de la même chose. Quand on mesure le PIB annuel, on est d'accord que sur la zone euro, on sera sans doute sur du moins 7 et que sur la France, on sera sans doute sur du moins 11. Et par contre, à la fin de cette année, on devrait être revenu simplement à moins 3 par rapport au niveau d'avant-crise. Après, sur la croissance, vous voyez, entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, on a mis plus 3%. Donc voilà, c'est un rythme de croissance assez rapide qu'on a déjà fait dans la zone euro, hein, qui n'est pas un rythme incroyable, mais qui fait partie des rythmes de croissance rapide qu'on peut faire quand on a des éléments positifs comme une politique budgétaire, une politique monétaire qui aide. Là aussi, il faut faire attention que quand on va voir les chiffres annuels qui vont être publiés et annoncés en prévision, le chiffre annuel va être plutôt sur du plus 7%. Mais ça ne veut pas dire que l'année 2021, on va croître à 7%. C'est simplement que quand on comparera l'année 2021 dans son ensemble à l'année 2020 dans son ensemble, on aura ce qu'on appelle un effet de base positif, dans le sens qu'on a le deuxième trimestre de cette année qui est absolument catastrophique et qui plombe totalement la moyenne de 2020. C'est surtout cet effet-là qui fait que le taux de croissance annuel 2021 sera très fort à plus 7. La croissance sur les trimestres de 2021, elle ne sera que de plus 3, comme le montre le glissement sur un an, entre T4 2021 et T4 2020. Voilà, là aussi, hein, c'est un exercice qu'on fait pour se fixer des ordres de grandeur, pour arriver à penser, à réfléchir. La fragilité de ce type de prévision est bien sûr très élevée aujourd'hui. Hein. C'est un exercice assez délicat. Voilà, donc ça c'est sur la partie économie, la lecture qu'on a aujourd'hui, hein, de d'où on est, de comment ça commence à évoluer côté entreprise, côté ménage, les choses qui commencent à se dessiner et les perspectives qu'on peut essayer d'imaginer pour les 18 prochains mois. Si on revient maintenant, si on s'intéresse au marché financier, on le met toujours hein, systématiquement en premier, mais c'est vrai que le graphique qui permet de comprendre pourquoi les actifs risqués ont autant rebondi depuis les points bas, même si sur la journée d'aujourd'hui, on a bien sûr une très forte baisse, hein, on perd à peu près 5%, mais malgré la baisse de 5% d'aujourd'hui, ça n'enlève pas le rebond qu'on a depuis un mois et demi. Et donc la principale explication, c'est quand même le fait qu'on a un taux sans risque de référence mondiale long terme, donc un taux sans risque long terme, pardon, de référence mondiale, qui est le 10 ans d'État américain, qui a énormément baissé, qui est passé sous les 1%. On est en ce moment même à 0,67, alors que certes, il avait beaucoup baissé avant, mais il était toujours entre 2 et 3. Et donc maintenant, clairement, le message qui est envoyé aux investisseurs, c'est que si on ne veut pas prendre de risques dans un investissement un peu de moyen-long terme, on n'a plus rien. En zone euro, on a zéro. On a même des taux négatifs hein, sur le 10 ans allemand. Et aux États-Unis, qui était le dernier endroit où on gardait une rémunération correcte de 2-3%, ben on tombe à 0,6-0,7. Et donc ça, c'est un élément important, puisque forcément, ça pousse les investisseurs vers les actifs risqués. Ça les rend moins exigeants. C'est-à-dire que ce que vous pouvez exiger d'espérance de performance sur un placement en action, bah forcément vous le revoyez à la baisse si le reste voit ses espérances abaisser. Et donc avec la baisse du taux 10 ans américain, tout le monde réévalue un peu à la baisse ses espérances sur les actifs risqués, qui revient à accepter des valorisations plus élevées. Voilà, pour nous c'est un élément important pour comprendre le rebond du marché. Il y a bien sûr le fait que le nombre de cas et la mortalité a diminué dans les pays développés et qu'on a des premiers chiffres économiques un peu meilleurs, mais il y a quand même ce facteur technique qui est assez important. Le graphique du bas, c'est juste pour souligner que la baisse du taux d'État se produit à un moment où on a un creusement très impressionnant en fait du déficit. Normalement, c'est un type de déficit qu'on ne voit qu'en période de guerre mondiale. Vous pouvez le voir sur le graphique. Et donc, il y a un moment, il y aura sans doute une limite à la baisse des taux aussi forte, alors même qu'on emprunte de plus en plus. Et en plus, on emprunte beaucoup plus d'un point de vue public. Mais même quand on regarde les émissions privées, on a eu une augmentation des émissions privées depuis le début de l'année. Donc c'est la masse entière agrégée public-privé qui augmente en emprunt, et donc il y aura un effet sur les taux peut-être à un moment, mais c'est vrai que ce sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, les banques centrales sont là en protection et sont prêtes à acheter autant que nécessaire pour éviter tout mouvement de remontée des taux d'intérêt. Page suivante, c'est juste pour montrer l'évolution des spreads de crédit, donc le supplément de taux que doit payer un émetteur privé par rapport à l'État. On voit deux choses, surtout sur le graphique du haut. Le graphique du bas, c'est plutôt la situation dans les pays périphériques où on voit que les taux ont un peu baissé. Mais sur la partie du haut, c'est vraiment les émetteurs privés. Ce qu'on voit, c'est que l'envolée de ces spreads, donc de ces primes de risque, a été certes très important, mais très inférieur à ce qu'on a vu en 2011-2012, qui était un épisode très inférieur à 2008-2009, qu'on n'a pas sur ce graphique. Et qu'on rebaisse quand même rapidement, on a effacé déjà la moitié en fait de l'augmentation de la prime de risque. Donc la prime de risque s'est tendue, les spreads se sont tendus et on a effacé la moitié de la tension déjà. Et donc ça, c'est un élément important aussi. C'est important parce que ça montre un niveau de confiance pour des investisseurs. Ça veut dire que quand les entreprises empruntent en ce moment sur les marchés, le taux d'emprunt n'est pas prohibitif. La prime de risque qu'on leur fait payer diminue régulièrement. Et puis ça met aussi une pression sur le marché actions parce que ça veut dire que non seulement les taux sur l'État, les rémunérations sont très très basses, on vient de le voir, mais même sur les emprunts un peu risqués du secteur privé, les rémunérations baissent de jour en jour puisque les primes de risque baissent de jour en jour pratiquement. Sur les marchés actions, on a clairement des perspectives de résultats qui se sont fortement dégradées sur 2020. On voit la courbe grise sur la droite du graphique en haut de la page 21, la très forte dégradation. Le marché anticipe quand même un rebond assez significatif en 2021. Alors, on n'efface pas totalement la baisse, mais on efface une bonne partie de la baisse. Et donc, c'est quand même un élément qui est assez différent des autres crises, c'est-à-dire que sur les autres crises, le marché anticipe une remontée des profits beaucoup plus lente en sortie de récession. Cette récession est un peu particulière, comme je l'ai évoqué plusieurs fois. Pour beaucoup, c'est plus une mise en sommeil de l'économie, mais avec l'idée que si on redémarre derrière, on revient en bonne partie pour un certain nombre d'entreprises à ce qui prévalait avant la crise, et donc on peut retrouver un niveau de profitabilité assez élevé rapidement. Il faudra voir si effectivement c'est quelque chose qui se produit dans la réalité. Mais là, il faudra quand même plusieurs mois, voire plusieurs trimestres pour voir les choses se dessiner. En tout cas, un élément important pour nous et qui explique notre conclusion qui reste positive sur les actifs risqués, c'est qu'on a un positionnement des investisseurs institutionnels qui reste très prudent. On a un indicateur fait par State Street qui regarde l'ensemble des comptes déposés chez eux. Et pour chacun, ils connaissent le positionnement normal de l'investisseur et ils sont capables de voir est-ce que les investisseurs sont surexposés sur les actifs risqués ou est-ce qu'ils sont sous-exposés, le niveau de 100 étant une neutralité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est toujours sur les niveaux parmi les plus bas des 20 dernières années. Et donc, on n'a pas ce qu'on avait eu en 2009, où certes, on avait eu une baisse très rapide, mais on avait eu un rebond tout aussi rapide sur avril, mai, juin, où quand le marché actions avait remonté, c'était vraiment la traduction d'un retour massif des investisseurs. Ce qui quelque part est un peu négatif quand on veut faire une prévision de marché, parce que si on se dit que tout le monde est surexposé, bah forcément, il n'y a plus beaucoup de bonnes nouvelles en termes de flux à attendre. C'était le cas en 2009. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. On a des investisseurs qui sont toujours sous-exposés en masse sur les actifs risqués. Et donc, on a plutôt des flux positifs possibles à venir, a priori, dans les prochains trimestres, de la part de ces investisseurs qui sont plutôt sous-exposés par rapport à leurs normes. Sur la page suivante, on vous a mis un graphique, je crois qu'on a déjà mis, qui est quand même très impressionnant, qui est l'évolution de la masse monétaire M2 sur un an aux États-Unis. On a des données qui sont hebdomadaires depuis un moment. Avant, elles n'étaient que trimestrielles, avant que annuelles. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 1900, on n'a eu qu'une fois où la masse monétaire a progressé aussi vite. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Autrement, on n'a jamais vu des progressions aussi fortes. Et ce qu'on peut voir, ce qui est important, c'est que on n'avait pas du tout de progression forte pendant la période de l'assouplissement quantitatif, du quantitative easing qu'on a eu entre 2010 et 2000 et la période très récente. Et on l'avait souligné, c'est-à-dire que le quantitative easing qui avait été mis en place, c'était surtout une façon d'abreuver les banques de liquidités sur leurs comptes à elles, les comptes qu'elles détiennent auprès de la banque centrale. Mais finalement, ces liquidités restaient dans le système interbancaire avec la banque centrale et ne passaient pas dans l'économie réelle, l'économie de tout à chacun, celle des entreprises, celle des ménages. Et on n'avait pas retrouvé ces liquidités sur les comptes bancaires des agents économiques. Cette fois-ci, les liquidités sont vraiment passées au niveau des agents économiques. Elles sont passées, on l'a vu, parce que les entreprises ont tiré des liquidités qu'elles ont gardées sur leurs comptes. Alors cette partie va sans doute repartir. Par contre, les ménages, eux, se retrouvent avec un excédent d'épargne qu'ils n'ont pas investi, qui reste positionné sur leurs comptes. Et donc, c'est vrai que la théorie monétariste, qui est moins en vogue depuis 20 ans que sur les 40 années précédentes, mais lie fortement l'évolution des masses monétaires et l'évolution de l'inflation. Ça fait partie des choses qui sont assez envisageables de voir une accélération de l'inflation dans les prochains trimestres. Alors pas tout de suite, parce que là on a eu la baisse du prix du pétrole et qu'on a une situation qui est compliquée d'un point de vue macroéconomique, mais c'est vrai que c'est un élément dont ça fait partie des scénarios possibles de voir une inflation qui réaccélérerait, alors pas sur des 5 ou 10%, mais pourquoi pas sur du 3%. C'est pas du tout ce qui est intégré par le marché, sur les prévisions du marché, c'est sur le graphique juste en dessous. Vous avez la réalité à gauche en noir bleu foncé et puis en bleu clair vous avez les anticipations implicites qu'on a dans les swaps d'inflation. Le marché n'anticipe pas de remonter avant une dizaine d'années, même à 10 ans on est seulement à 2% d'inflation, mais ça fait partie des scénarios alternatifs possibles, c'est de voir l'inflation accélérer plus fortement que ce que le marché a en tête aujourd'hui et que ce qu'on a vu depuis un certain temps. Sur la dernière page, en fait, on a remis une conclusion qui synthétise un peu ce qu'on pense sur les marchés. Alors c'est vrai que la conclusion est un peu prise à revers par la variation des marchés aujourd'hui, mais les marchés restent très volatiles. On a clairement des éléments négats, quand on réfléchit aux actifs risqués, il y en a deux principaux. Le premier, c'est qu'on a un maintien d'un niveau d'incertitude très élevé sur l'épidémie, sur l'impact final, en termes de faillite d'entreprise, sur les politiques économiques, sur beaucoup de choses. Par ailleurs, on a un très fort rebond, très rapide des actifs risqués sur les dernières semaines. Malgré la baisse d'aujourd'hui, hier, on reste sur un rebond qui est assez impressionnant, qui a peut-être été très rapide, voire trop rapide. Mais face à ces éléments-là, on a quand même un certain nombre d'éléments positifs qui, pour nous, devraient l'emporter au final, au-delà de la volatilité journalière. Il y a d'abord le fait que le point bas économique semble vraiment passé. Et ça, c'est important. Les marchés aiment bien passer les points bas. C'est-à-dire, ce qui compte vraiment sur les marchés, c'est pas tant le niveau, c'est la pente. Et là, on a vraiment le sentiment que les indicateurs économiques qui vont être publiés dans les prochains mois vont tous être meilleurs que le mois d'avant et ainsi de suite. Et donc, ça va participer d'une psychologie positive. On va avoir un flux de nouvelles, un news flow, comme on dit, qui devrait être positif. On a des politiques monétaires et budgétaires hyper accommodantes et qui vont continuer de l'être avec des annonces qui vont continuer. Et donc, ça reste un facteur de soutien. On a le positionnement qu'on vient de voir des investisseurs qui restent prudents, c'est-à-dire qu'en moyenne, les investisseurs institutionnels sont plutôt sous-pondérés sur les actifs risqués. dirais qu'à un moment, il se repositionne et ça va faire des flux acheteurs, ce qui devrait soutenir les actifs risqués. Et puis, on a la valorisation relative, hein, le fait que le 10 ans d'État ne rapporte plus rien et que quand on compare aux autres classes d'actifs, un marché action un peu cher par rapport à tous les autres places d'actifs qui peuvent paraître être très chères, finalement, redevient attractif. Et voilà, donc quand on solde tout ça, on arrive à l'idée qu'on est plutôt toujours positif sur les actifs risqués, même si on l'est moins qu'on l'était il y a un mois et demi, quand ils étaient à des niveaux bien plus déprimés. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'ai pas eu le temps de regarder si des questions sont arrivées.
On va te laisser le temps de regarder les questions. Je vous propose d'essayer d'y apporter une réponse relativement rapide pour ne pas trop déborder sur le temps qui nous reste. Mais je pense qu'il y a quelques questions qui peuvent concerner plus facilement François. Notamment celle-ci, tactiquement, les marchés européens semblent offrir plus d'opportunités qu'en Europe. Néanmoins, ce constat n'avait pas conduit à une surperformance ces dernières années. François, est-ce que vous avez un commentaire sur l'écart Europe-États-Unis principalement?
Oui, je reformule la question. Je pense que la question, c'est les marchés européens semblent offrir plus d'opportunités qu'aux États-Unis. Je pense que c'est sans doute ça. On l'a vu, il y a eu ces dernières années, si on reprend juste deux secondes, ces dernières années, une forme de convergence des profitabilités des entreprises américaines, enfin des entreprises européennes plutôt, vers celles des entreprises américaines, et une forme de convergence des niveaux de valorisation. Un écart s'est recreusé à nouveau, et aussi bien en termes de performance économique. Les entreprises américaines ont maintenu un écart, et ça c'est depuis, on va dire, 6 ou 7 ans maintenant, ont maintenu un écart, et les Européens sont un peu moins profitables que les États-Unis, donc ça a peut-être été une convergence temporaire. Et les performances boursières aux États-Unis ont été plus fortes, effectivement. Alors il faut voir qu'il y a des mix aussi bien dans la contribution à la profitabilité que dans la contribution à la performance des indices, il y a des mix sectoriels très différents. Et c'est vrai que aux États-Unis, la contribution, je les appelais comme tout le monde, les GAFAM, mais à la profitabilité pour certaines d'entre elles, qui sont extraordinaires, hein, les profitabilités des Google et Microsoft et Apple sont énormes. C'est moins le cas d'Amazon, évidemment, mais des profitabilités énormes et des poids dans les indices très importants liés à des performances boursières elles-mêmes qui ont été colossales. Et donc, quand on regarde un peu plus finement, et si on mettait un peu de côté la contribution de ce sous-secteur-là, de ce groupe d'entreprises-là, finalement, il n'y a pas un écart formidable, même si le secteur financier américain s'est quand même mieux tenu, ou en tout cas mieux repris, que le secteur financier européen pour un certain nombre de raisons. Donc c'est vrai que si on devait faire un call, comme on appelle value, enfin un call, pardon, une incitation à investir value, c'est dans la valeur, dans ce qui est bon marché, c'est vrai qu'en Europe, elle apparaît en aggloméré, mais aussi un peu en détail, paraît moins cher, et qu'il n'y a pas de, malgré cette sous-valorisation, il n'y a pas eu aujourd'hui de rattrapage en termes de performance, parce que la locomotive de la performance américaine continue d'accélérer, et le secteur américain de la technologie au sens large, même s'il y a des exceptions bien sûr, c'est quand même très très bien comporté et très vite repris, même très violemment repris, et qu'on a beaucoup moins cette composante-là. Le secteur pharmaceutique européen, si on fait une comparaison, c'est très bien comporté et peut-être un peu mieux que le secteur pharmaceutique américain. Donc voilà, il y a un mix assez complexe à décomposer. En masse, c'est vrai que l'Europe apparaît aujourd'hui moins chère que les États-Unis.
Merci. François, je crois qu'il y a une autre question qui vous concerne plus directement sur le niveau d'endettement des entreprises qu'on peut peut-être juger de préoccupant et qui risque d'entretenir certaines entreprises avec de moindres perspectives. On parle du terme très à la mode de zombification de l'économie, avec ces entreprises qui sont fragiles et entretenues juste par des facilités de crédit. Quel commentaire vous pouvez apporter?
Alors, les taux d'intérêt sont bas, y compris pour des entreprises médiocres depuis longtemps. Hein. Donc, ça, c'est lié aux politiques monétaires en Europe. Et donc, les entreprises zombies, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui ne survivent que parce que elles trouvent des financements bon marché en face de rentabilité médiocre. Il y en a. Là, c'est très difficile de voir comment l'endettement a évolué à court terme, parce qu'il y a eu beaucoup de dépôts aussi. Beaucoup d'entreprises ont tiré sur la France, en tout cas, sur les plans garantis par l'État. Donc, c'est très difficile d'avoir une vision de l'endettement net, hein, sachant qu'il y a évidemment un creux de trésorerie, mais qui peut n'être que passager, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et qui se comble au fur et à mesure que l'activité reprend. Mais c'est vrai, et on est très vigilant là-dessus, que quand l'argent est gratuit ou trop bon marché, eh bien, il peut y avoir une tendance à investir dans des projets pas rentables, mais qui satisfont une certaine pression. On a vu quand même que les prévisions d'investissement ont baissé, hein, parce que la réalité, je reviendrai dessus, les prévisions d'investissement d'entreprise ont quand même sont revues en baisse en France notamment, et ça semble sans doute pas vigoureux. Ce que je crois, c'est que les entreprises investissent en réalité quand elles perçoivent qu'il y a une demande finale qui est soutenue et qu'elles ont de la visibilité. Le coût du financement est un facteur, je dirais, de second ordre. Évidemment, quand on monte les taux d'intérêt, comme Trichet l'avait fait en 92, évidemment, ça a un impact évident sur le financement des investissements. Mais sinon, c'est vraiment les perspectives de long terme et de soutenabilité de la demande qui est, je crois, l'incitatif le meilleur pour les entreprises pour investir. Il n'empêche que les taux d'intérêt bas maintiennent des modèles et taux d'intérêt bas et les évaluations très élevées aussi pour des entreprises qui ne gagneraient pas d'argent, mais qui ont des promesses d'en gagner, font que le coût du capital est très bas et qu'on peut avoir des stratégies en réalité très prédatrices, c'est-à-dire des entreprises qui pendant très longtemps ne créent pas de valeur, n'en créent plus et qui déstabilisent la formation normale des prix notamment et viennent détruire de la valeur chez des concurrents qui n'ont pas les mêmes facilités ou qui n'ont pas la même complaisance sur leur évaluation ou la même aisance sur leur financement.
Merci François. Peut-être encore une ou deux questions pour Mathieu avant qu'on termine cette conférence téléphonique. Mathieu, comment selon toi mobiliser l'épargne massive constituée pendant le confinement pour relancer l'économie le plus vite possible?
À mon avis, cette épargne, elle est disponible, donc je pense qu'elle sera mobilisée si on freine pas les consommateurs. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de les pousser. Je pense qu'il faut arrêter de les freiner. Donc c'est sûr que pour leur permettre de consommer, il faut que d'abord là où ils consomment, ce soit ouvert. Donc il nous manque tous les restaurants à Paris en particulier, c'est pas négligeable. Et il faut sans doute, dans la mesure où c'est raisonnable par rapport à l'épidémie, hein, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais savoir revenir sur tout ce qui est distanciation sociale. On l'a vu, hein, les achats lourds, ils reviennent, c'est-à-dire que les machines à laver, des choses comme ça, le fait que ce soit pas très agréable d'aller dans un magasin et de devoir porter un masque, si c'est quelque chose qui permet d'acheter une télévision deux fois plus grande que sa précédente pour son salon, je vous avoue que l'inconvénient à mettre son masque pendant 10 minutes est négligeable par rapport au plaisir que va générer l'achat. Par contre, quand on est sur des achats plus modestes où le fait de se balader dans la boutique fait partie théoriquement du plaisir autant que le plaisir qu'on aura de retour chez soi avec ce qu'on aura acheté, c'est sûr que tout ce qui est distanciation sociale, le fait de porter des masques, etc., ça maintient un environnement anxiogène. Donc, moi, je crois que le principal élément, c'est qu'il faut arriver de façon raisonnable en fonction de l'évolution de l'épidémie, mais il faut arriver à retirer toute cette anxiété qu'on a quand même générée, hein, avec une communication extrêmement anxiogène pendant des semaines et des semaines. Et permettre aux ménages de retrouver le plaisir de consommer. Si on veut que la consommation soit là, la principale chose à faire, à mon avis, c'est de redonner un environnement qui permette une consommation qui soit associée à l'idée de plaisir et non plus avec quelque chose d'anxiogène comme c'est un peu le cas aujourd'hui.
Très bien. Peut-être encore une question sur un sujet qui n'a pas été directement abordé durant ta présentation. Les émergents sont-ils à éviter dans ce contexte, dans le contexte économique ?
C'est, euh, c'est, C'est une question délicate, honnêtement. Je ne pense pas que les émergents soient à éviter dans une vision de moyen terme, parce que les émergents vont passer, on va dire, la crise économique en un sens mieux que les pays développés. Donc les variations de PIB seront, on n'aura pas des contractions d'activité comme on va avoir dans les pays développés, dans les pays émergents. Par contre, c'est vrai que ce qui fait que c'est difficile de se positionner aujourd'hui sensiblement, et moi je pense qu'il y a deux éléments, c'est que d'une part, là où ça reste compliqué au niveau de l'épidémie, c'est essentiellement dans les grands pays émergents. Donc on a quand même, on a évoqué l'Inde, on a évoqué le Brésil, mais la Russie, ça reste également compliqué. Donc c'est ceux où l'épidémie ne donne pas encore des signes vraiment positifs. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà moins motivant. Et c'est aussi les pays qui sont sans doute où l'équation est plus compliquée. C'est-à-dire que c'est vrai que dans cette crise, hein, je ne sais plus si je l'ai dit là, mais on est dans un sentiment où on peut faire un peu tout et n'importe quoi pour aider l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'au niveau de ce que font les banques centrales, c'est sans limite. Au niveau des budgets, c'est sans limite. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de force de rappel, il n'y a plus de contrôle. C'est relançons, soutenons absolument sans aucune limitation. C'est un peu plus compliqué quand même dans les pays émergents. C'est-à-dire que tant que vous avez votre devise, que votre devise est solide, que vous n'êtes pas dépendant du reste du monde, vous pouvez dire je fais ce que je veux, je suis chez moi, j'ai ma devise, j'ai mon budget. Quand vous êtes un peu dépendant quand même des flux d'investissements étrangers, des investissements directs ou des investissements financiers, c'est plus compliqué de dire je mets mes taux à zéro, je fais du quantitative easing et je fais un déficit budgétaire sans limite. Donc y a ce paramètre-là aussi qui rend l'équation un peu plus compliquée pour les pays émergents où, à un moment, ce qu'on accepte de voir faire à des pays développés très solides, non dépendants des flux, on pourrait à un moment, ça pourrait ne plus être le cas sur certains pays émergents. Donc voilà, je pense que même si on peut dire que la probabilité que les pays émergents passent mieux la crise économique que les pays développés sur la base des éléments qu'on a aujourd'hui, hein, cette probabilité est assez élevée, je ne serais pas pressé pour les privilégier d'un point de vue marché financier parce qu'il y a encore trop d'incertitudes, je trouve, par rapport aux pays développés.
Merci beaucoup Mathieu. Il est 19h09. François, je vous repasse peut-être
oui,
la parole.
Écoutez, on a dépassé l'heure que nous nous étions donnée, donc on va libérer nos auditeurs en les remerciant de leur attention, de leur fidélité pour ceux qui nous rejoignent depuis plusieurs fois. Et puis nous vous donnons rendez-vous dans les semaines prochaines. On fera un point aussi, on essaiera de trouver d'autres illustrations. Et entre-temps, bien évidemment, les équipes de Lazard Frères Gestion sont à votre disposition. Donc, nous vous remercions à nouveau de votre attention, de votre présence, de votre fidélité, et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci à tous. À bientôt.
Merci.